Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Jean-Claude Rouchouz. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à vous.
Vous êtes ici pour plusieurs associations dont vous faites partie et on va commencer par une toute nouvelle association qui s'intitule Créatif Coopérative Culture et donc vous êtes le président. Alors on peut peut-être présenter ce qu'est cette association.
Voilà. Alors c'est Créatif Coopération Culture. Coopération Culture. Donc c'est une association qui est très récente, de juillet 2019. Et le but de cette association, c'est de mettre au point des recherches, disons, enfin une méthode d'analyse de type écologique, on appelle ça écosystémique, et de type participative, sur une ou plusieurs communes du Diwa et des Baronnies, dans le but de traiter les problèmes d'eau qui vont se passer, qui vont arriver, et puis le maintien de la biodiversité. Voilà, donc nous sommes à la recherche d'une ou plusieurs communes dans le Diwa et dans les Baronnies qui éventuellement seraient partantes pour qu'on fasse au niveau d'une commune, donc un petit secteur, une étude écologique novatrice concernant l'écologie, la résolution des problèmes d'eau et la biodiversité. Et disons que ça doit, normalement, quand l'étude se fait, elle se termine par des propositions de développement durable pour une commune. Ou un petit bassin versant. Ça, voilà. Alors, j'ai contacté la commune de Luc-en-Diwa. Il y a un contact avec la commune de Luc-en-Diwa. Bon, je ne sais pas si ça va se poursuivre, si ça va continuer. Mais c'est une possibilité, Luc-en-Diwa. On est à la recherche éventuellement d'autres communes sur les Baronnies. Alors, il y a une petite équipe, hein, c'est tout nouveau vraiment cette association, c'est une petite équipe, donc moi qui ai une formation de biologiste, et puis il y a Karyong Stablo qui est un ingénieur paysagiste, et Caroline, qui est architecte. Donc vous voyez, c'est c'est construire une nouvelle méthode de recherche qui insiste aussi sur ce qu'on appelle le développement participatif, c'est-à-dire l'interview des gens de la commune, la rencontre du maire, voilà. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait récent.
Cette association toute jeune réunit des personnalités de divers endroits de la Drôme.
Alors on a contacté beaucoup de personnes, on a contacté la sous-préfète de Die, la sous-préfète de Nyons, on a rencontré les responsables des parcs régionaux du Vercors et des Baronnies pour leur présenter notre projet et leur demander aussi quelle aide pouvait être apportée à l'association. Et puis, est-ce qu'il y aurait des communes qui seraient, comment dire, dynamiques, enfin, qui seraient volontaires pour que l'on fasse... Parce qu'on veut démarrer par un projet pilote, très simple, mais un projet pilote, alors avec vraiment des études sur le terrain, c'est-à-dire l'étude de la géographie, de la géologie, de la faune, de la flore, de l'agriculture, puis la rencontre des gens sur le terrain. Et tout ça aboutit à des propositions très précises de développement durable. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une commune. Hein.
Vous disiez avoir pris contact avec Luc Andiwa auparavant. Vous avez d'autres communes que vous avez sollicitées aussi ?
Alors, pour le moment, on a rencontré donc les gens du parc régional du Vercors qui nous ont dit que eux allaient contacter des communes sur la vallée de Quin, mais on n'a pas eu de retour. C'est quelque chose qui... Le projet pilote, moi j'ai démarré, mais alors à titre personnel, une étude sur la commune de Poyol, que je connais bien. L'idéal, c'est qu'un projet pilote soit terminé en décembre 2020.
Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, étant, en tant que président et j'imagine aussi créateur de cette association qu'est-ce qui vous a motivé pour la créer, justement, sur le territoire ?
Alors, en fait, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de la création. C'est Kariang Stablo, qui est donc l'ingénieur paysagiste, et qui a l'objectif, à partir de 2021, de faire un doctorat. Sur ces problèmes-là. Donc c'est elle qui est à l'initiative de la création de cette association et elle m'a demandé si je voulais bien être le président. Donc bon, comme moi j'ai une formation de biologiste et puis que j'ai déjà publié dans le domaine de l'écologie, bon, j'ai accepté. Donc voilà, c'est parti de cette manière-là. Donc on a rencontré pas mal de personnes ça serait bien vraiment qu'on puisse terminer un projet pilote en décembre 2020.
Pour toute personne intéressée par cette association, quels sont les moyens de vous contacter ?
Ben, il peut me contacter sur mon téléphone au 04 75 21 02 00. Et puis moi, je suis Diwa. J'habite à Di, au 39 rue de la Ramellerie. Donc, ils peuvent laisser un mot dans la boîte aux lettres. Ces recherches, on appelle ça des recherches écosystémiques participatives, elles ont été développées par un chercheur en Australie pour résoudre les problèmes de sécheresse. Oui, ça peut être novateur. Et potentiellement, ça peut être novateur pour toutes les communes de France. Donc, ce qui est quand même pas négligeable.
Vous amenez cet exemple d'Australie. Ouais. Ça a apporté ses fruits, justement, cette démarche localement.
La démarche, c'est une démarche d'étude des problèmes d'eau et de régénération des sols. Mais comme vous le savez, ça se passe très mal en Australie, hein, avec la sécheresse. Mais c'est l'un des espoirs des Australiens de mettre en place ces techniques.
Je ne sais pas si vous êtes très au fait de cette histoire, mais quelles sont les problématiques à y remédier justement sur ce territoire en Australie ?
Ce sont des techniques qui consistent, comment dire, à essayer d'économiser l'eau au maximum. Vous voyez, le goutte à goutte, là, maintenant qu'on utilise aussi, hein, économiser l'eau au maximum, et puis en même temps améliorer les techniques de régénération des sols et jouer sur la façon dont un sol peut garder l'eau et éviter des pertes. Voilà, donc c'est important sur le plan économique.
Limiter les ruissellements, donc.
Éviter les ruissellements, voilà.
Donc ça, c'est une des associations dans laquelle vous faites partie. Nous allons passer à celle de l'association drômoise des cimetières familiaux.
C'est l'association de sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme. Alors ça, c'est une association qui est plus ancienne, dont je suis le premier président, parce qu'elle a été créée en 2012. Hein, 2012. Donc ça, c'est une association qui est une association départementale, laïque. Et le but de cette association, c'est de faire l'inventaire de tous les cimetières familiaux que l'on sait être d'origine protestante du département, donc leur inventaire à partir d'une fiche technique très précise, puis éventuellement de les entretenir et éventuellement de même les restaurer. et puis de donner des conférences sur l'histoire des cimetières familiaux. Hein. Depuis 2012, l'association a donné presque 9 conférences qui ont été suivies par 700 personnes. Et les cimetières familiaux de Valcroissant et de Poyol ont été filmés par TF1, c'est passé aux Infos Nationales, à la Toussaint, hein, et puis par France 3 Rhône-Alpes, donc c'était vu par 3 millions de personnes quand même. Voilà, donc faire connaître cette histoire très, très intéressante des cimetières familiaux, c'est lié à la révocation de l'édit d'Nantes par Louis XIV, hein, qui avait interdit le protestantisme. Donc les protestants s'enterraient en secret dans leur sang, et la tradition est restée. Mais ces cimetières sont maintenant familiaux, parce qu'une famille qui est catholique ou qui n'a aucune conviction religieuse peut se créer son propre cimetière dans sa propriété, à condition d'avoir un accord hydrogéologique. On a publié un fascicule sur l'histoire des cimetières familiaux, qui est pratiquement presque épuisé maintenant. On va faire le prochain travail de l'association, c'est de faire une nouvelle publication de ce fascicule avec une mise à jour.
Et quels sont les apports qu'ont pu produire cette association au niveau de ces lieux ?
Alors, on fait le répertoire, hein, de chaque cimetière. Donc, on indique s'il est entretenu ou abandonné, parce que le problème de ces cimetières familiaux, c'est que on en a, selon les communes, entre un quart et un tiers en état d'abandon. Parce que ce sont des cimetières privés, ils ne sont pas entretenus par les communes. Hein. Ils sont privés, donc quand les familles n'ont pas de descendants, que plus personne ne s'occupe du cimetière, il tombe en ruine, il est envahi par la végétation, et vite. Donc le but de l'association, c'est de les répertorier, les étudier, et puis éventuellement de les entretenir, de les débroussailler.
Le département est très sensible donc à cette démarche, au point de la financer ?
Alors, pour le département, non. On a une petite subvention qui est de l'ordre de 100 euros de la mairie de Die. Hein. Je dois dire qu'on n'a pas cherché à tout prix des subventions au niveau national, départemental. Par contre, on a près de plus de 80 adhérents. Hein. C'est une association départementale et des adhérents qui ne sont pas forcément dans le département de la Drôme, qui peuvent être ailleurs, mais qui s'intéressent à l'histoire du protestantisme. Voilà. J'ajoute que il y a une sorte de renouveau de cette histoire du protestantisme par des laïcs, d'ailleurs, hein, puisque Die est jumelé avec Luisendorf, qui est un lieu d'accueil des Huguenots qui se sont exilés à la révocation de l'édit de Nantes. Et d'autre part, il y a le sentier des Huguenots, hein, qui est le sentier d'exil de ces protestants à partir de 1680-1685. Voilà, donc c'est assez curieusement revenu dans l'actualité depuis une dizaine d'années.
Concrètement, cela a permis de restaurer combien de sites et quel coût ça impose? Et je suppose que ce sont les adhérents qui financent aussi par leur contribution ces démarches?
Oui, oui. Alors, on a entretenu peu de cimetières parce qu'on n'a pas de gros moyens financiers. Donc on a restauré, alors là, vraiment restauré complètement un cimetière qui est celui d'un ancien maire de Die, Audifray, qui est donc un cimetière familial qui est sur la commune de Die, la colline des Floraux. On l'a restauré, on a mis une stèle. On a financé une stèle avec une plaque parce que ce lieutenant-colonel Audifray, qui n'a pas été maire longtemps, hein, quelques mois, mais surtout, il a été apprécié parce qu'en fait, il a donné les 9 dixièmes de sa fortune aux hospices de Die, ce qui a permis aux hospices de Die d'acheter des terrains. Voilà. Donc ce cimetière était en état total d'abandon, il n'y avait plus rien. On savait qu'il était là. Il y avait eu un petit mausolée à un moment qui est tombé en ruine, qui a été démoli. Donc on a fait une stèle qui indique les qualités qu'avait ce lieutenant-colonel Audifray. C'est lui qui avait planté les platanes de la cathédrale.
Audifray, donc, il est du 19e siècle.
Hein, ouais, fin 19e.
Cimetières familiaux, son actualité, prochainement peut-être une assemblée générale ou...
Il y a une assemblée générale qui est prévue au mois d'avril, mai, avril, et on pense qu'elle sera faite à Espenel. À Espenel, qui est une commune où il y a beaucoup de cimetières familiaux. Alors la répartition des cimetières familiaux est inégale. Nous pensons qu'il y en a plus de 1000 dans le département. Mais la répartition est inégale, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans le Diois, il y en a beaucoup dans les baronnies, et il y en a encore aussi sur le rebord ouest du Vercors. Voilà. Par contre, il n'y en a pas sur les hauts plateaux du Vercors, et il n'y en a pas, ou très peu, dans le couloir rhodanien. Tout simplement parce que c'est quand même lié à l'histoire, et que le protestantisme, la religion protestante, s'était surtout implantée dans le Diois et dans les baronnies.
Je me souviens des jours passés près de toi, maman. Je me souviens encore de ces moments-là. Tes souvenirs resteront gravés à moi pour toujours. L'espoir à moi que tu reviendras. Je te voulais que tu m'amènes au bout du monde. Sans toi, je me perds. Tu es la seule maman qui m'a rendu heureuse. Tu sais comment me rendre le sourire. Oh ma mère, toi qui m'as donné la vie. Oh ma mère, toi qui m'as donné la liberté. Oh ma mère, je penserai toujours à toi. Je veux que tu saches que le silence ne signifie pas l'oubli et l'absence ne se traduit pas par la distance. Je vous aime, maman, je vous embrasse.
Nous allons aborder aussi le Redar, dont vous êtes membre du conseil d'administration. Et l'actualité du Redar est laquelle aujourd'hui ?
Alors, le Redar, donc, c'est le réseau d'IWA d'accueil des réfugiés. Donc, c'est une association loi 1901 se consacre à l'accueil de réfugiés arrivant par voie légale. Hein. Et c'est cette association qui a accueilli, installé et aidé deux grandes familles d'Irakiens yézidis. Hein. Donc une, qui est arrivée il y a 3 ans maintenant, est à Luc en Diois, hein. Et l'autre est Adi. Donc ces familles sont arrivées sans parler un mot de français. Donc le Redar les accompagne au niveau de l'apprentissage du français, des démarches administratives, de la santé, hein, quand il y a des problèmes de santé. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faut dire que le fait qu'un réfugié arrive par voie légale, donc avec l'accord de l'État français, ça, il faut reconnaître que ça facilite beaucoup les situations. Ils obtiennent l'asile politique rapidement, les aides qu'ont tous les Français. Voilà, donc ça se passe bien. Bien sûr, on a le projet, peut-être en 2021, de faire venir une autre famille. C'est en cours d'étude.
Cette installation de ces deux familles se sont faites avec le temps, non sans embûches peut-être aussi.
Les difficultés, c'est quand même l'apprentissage du français, hein, parce qu'ils ne parlaient que l'arabe et encore l'arabe donc et en plus il y a deux types d'arabe, il y a celui qui est en langue latine et l'autre qui n'est pas en lettres latines. Donc l'apprentissage du français, c'est un problème, surtout pour les adultes. Les enfants, alors eux, vous avez l'étonnante capacité de l'enfant à acquérir une langue, ça marche très bien. Ils sont scolarisés, tous sont scolarisés. Alors ceux qui sont plus âgés, eux, ont trouvé des emplois, Voilà, donc dans l'agriculture en général. Mais en effet, c'est le problème du français qui est le plus difficile.
Avec le temps, je suppose que votre contribution s'est affinée par rapport aux demandes de ces deux familles. Cela prend combien de temps? Et donc, vous êtes combien dans cette association à agir directement auprès de ces familles?
Au niveau du RADAR, on peut dire qu'il y a au moins une quinzaine de bénévoles actifs. Il y a plus de 80 adhérents, il y a une quinzaine de bénévoles actifs, il y a des commissions, par exemple, moi je suis dans la commission logement, il y a une commission santé, il y a une commission français, voilà. Et je dois dire que, parce que moi ça m'arrive de rencontrer l'association générale qui essaye de regrouper des informations sur l'ensemble du département de la Drôme, et le RADAR marche plutôt bien, parce que c'est quand même une association structurée de type collégial. Il n'y a pas de président ni de voilà, c'est de type collégial. Ça fonctionne bien. Il y a des compétences variées. Donc c'est parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres associations d'aide aux réfugiés dans le Diois. Qui, des fois, ont plus de difficultés, moins de bénévoles actifs. Voilà. Donc, c'est positif. C'est positif. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que les communes soient comment dire, plus dynamiques au niveau de l'accueil des réfugiés. Parce que là, au niveau des communes, c'est pas terrible. Il y a des communes qui sont... il y a une association qui regroupe les communes qui souhaitent accueillir des réfugiés. Il y a une association française pour l'accueil des réfugiés au niveau de communes. Donc il y a des communes qui sont partantes, y compris dans le Diois, Val-Drôme, Saint-Dizier, parce que le problème aussi de certaines communes en territoire rural, c'est qu'elles se dépeuplent. Bien sûr, une solution parmi d'autres pour développer la commune, recréer des commerces, c'est d'accueillir de nouveaux habitants, qu'ils soient réfugiés ou pas réfugiés.
Les communes et les collectivités locales aussi œuvrent dans ce sens, puisqu'il y a le cadre légal attesté par l'État. Est-ce que ça a permis justement de faciliter ces accès au logement? Et quelles sont les principales embûches pour accueillir une famille ou du moins préparer à son arrivée?
La difficulté que nous, on n'a pas au RADAR, c'est... Est-ce que ce réfugié est arrivé par voie légale ou est-ce qu'il est arrivé de façon illégale en franchissant, par exemple, la frontière française au niveau de Briançon? Donc ça, c'est la première difficulté. Et ensuite, les difficultés sont les mêmes, sauf que il se trouve qu'il y a des réfugiés qui parlent le français déjà. Ça facilite beaucoup.
Donc là, vous vous occupez des personnes dites légales. Et quand vous avez affaire à une demande d'une provenance illégale, quelle est votre démarche ou quelle est votre réaction par rapport à ce fait?
Là, on est obligé de dire qu'on ne peut pas prendre en charge cette personne arrivée par voie illégale. Voilà, ça, on est obligé de le dire. Parce que c'est dans les statuts. C'est dans les statuts de l'association. Qu'on soutient des personnes arrivant par voie légale. C'est des Irakiens de religion yézidi. C'est la religion yézidi l'une des plus anciennes du monde. Et malheureusement, ils ont été victimes de persécutions sur des siècles. La Drôme est peut-être l'un des départements qui a le plus accueilli de familles yézidis. Il y en a à Crèves, à Lens, voilà. Je ne sais pas pour quelle raison, le hasard, voilà. Mais c'est vrai.
Le RADAR, c'est une association parmi tant d'autres dans la Drôme, ce qui permet aussi de vous concerter entre elles, de manière à agir et puis d'échanger des informations.
Oui, il y a une association qu'on appelle le CARDAV. CARDAV, CARDAV, qui a des réunions qui se font à Nyons, où on rassemble un peu l'ensemble des informations concernant la Drôme et même un peu l'Ardèche, hein, sur tout ce problème d'immigration, d'accueil de réfugiés, les difficultés. Ça s'appelle le CARDAF, et les réunions se font plutôt à Nyons.
Alors, le Rédard, c'est aussi une association qui agit tout au long de l'année. Est-ce que vous avez aussi des propositions de réunions publiques pour aborder des sujets ou solliciter des demandes peut-être aussi?
On a organisé des fêtes. Il y a un an à peu près, on a fait une fête. C'était à Aix-en-Diois. Donc il y a comme cela des fêtes, éventuellement une personne qui vient faire une conférence. Oui, ça s'est déjà fait et ça va se refaire.
Et puis aussi, vous vous réunissez assez souvent pour connaître un petit peu l'état des démarches.
Ah oui, on se réunit. Il y a des réunions régulières au niveau associatif. Oui.
Et donc, le Rédard, on peut peut-être trouver des informations quel niveau?
Pareil, en me contactant par téléphone ou au 39 rue de l'Armellerie.
Oui.
Ça m'arrive aussi quelquefois d'être sur le marché et de donner au niveau associatif, donner les informations sur le Rédard. C'est le samedi en général, le samedi matin.
Le Rédard n'entretient pas un blog comme ça, sur le net, justement
non. Non, il n'y a pas de... Alors que je me souvienne, parce que moi, je suis dans la commission logement, donc je ne connais pas tout. On peut avoir des informations, mais je ne les ai pas ici, parce que je n'ai pas pris les infos sur le Rédard. Mais on peut me contacter, et à ce moment-là, je transmets l'information. De même pour les adhésions, hein, c'est 10 euros l'adhésion. Si vous voulez aider la seule association... Loi 1901 d'aide de réfugiés, dans le Diois, c'est le Rédard. Hein. Il y a des personnes qui aident de manière nominative des réfugiés, mais au niveau associatif, association Loi 1901 constituée, il n'y a que le Rédard, le réseau Diois d'accueil des réfugiés.
Ce cadre du Rédard au niveau des statuts de l'association, est-ce que pour vous et d'autres membres, il n'y a pas un certain pincement au cœur du fait de refuser justement des personnes au statut illégal?
Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé d'être contacté par une personne qui avait voulait accueillir mais quelqu'un arrivant par vrai. Et on est obligé de leur dire non. Bon, c'est un choix. Hein. C'est un choix qui a été fait et que l'on ne regrette pas. Parce qu'on trouve qu'on est efficace. On est efficace. Comme on joue à plein dans la légalité, en fait, il faut reconnaître que ça nous facilite et que ces deux familles, donc quand même, c'est une famille de 8 et une famille de 11, hein, sont maintenant intégrées. Donc c'est une réussite. Donc alors peut-être qu'on est trop modeste, mais on se dit, bon, ça marche de cette manière-là, on continue... On a des statuts, on les garde et on continue. Mais on a eu des demandes pour accueillir des personnes qui sont arrivées par voie illégale. On ne peut pas les prendre. Mais on a aussi eu des demandes pour accueillir encore plus de familles arrivant par voie légale et qui sont, par exemple, dans la région parisienne.
Et que vous n'arrivez pas à contenter, en fait.
Parce que pour le moment, on est prudent. Donc, cette famille de 11 qui est arrivée il y a à peu près... ça va bien approcher un an maintenant. C'est du travail. On considère qu'il faut presque, pour un réfugiés arrivant ne parlant pas un mot de français avec les démarches, etc., il faut presque 7 bénévoles, 5 à 8 bénévoles actifs, hein, chacun traitant un problème. Donc on est prudent.
Et puis, il y a cette démarche aussi d'amener justement ces personnes accueillies à être en quelque sorte de plus en plus autonomes.
Oui, et ça marche bien. Hein. Il y en a qui, maintenant, la première famille, parce que ça fait déjà longtemps, ils parlent français, ils comprennent le français, et les enfants, tout se passe bien. Le collège-lycée de Die est très positif hein, au niveau de l'apprentissage du français. Il y a des aides spéciales, des compléments, et voilà, c'est très bien.
Voilà pour le Rédard. Et puis pour terminer, nous abordons Sources et Racines, hein, une association dans laquelle vous êtes le trésorier. Sources et Racines qui a à peu près 2 ans d'âge maintenant.
Oui, 3 ans. Ça a débuté en 2017. C'était pour le prendre en charge le salon d'automne de Die. C'était en 2017. Donc ça a été la première manifestation de Sources et Racines. Ça a été de prendre en charge et d'organiser le salon d'automne de Die, qui avant était pris en charge par l'association Dieuse des Amis des Arts, mais qui avait renoncé. Et donc, la première activité de Sources et Racines, ça a été ce salon d'automne, qui est un salon mycologique, champignons, plantes aussi, hein, donc variées, sur les savoirs concernant la nature, avec bien sûr quand même, comme c'est à la mi-octobre, les champignons étant le plus intéressant à ce moment-là. Mais ensuite, l'association a élargi ses activités et elle a créé un jardin de plantes médicinales et tinctoriales au quartier de l'Aube, à Die. Hein. Alors là nous avons une subvention de la part de la mairie de Die et du département. Donc ce jardin est créé, il est en cours de développement parce qu'on doit encore faire la signalétique du jardin, mais il est créé, il est fait, et il va se développer, il faut que les plantes poussent aussi. Hein. Voilà, donc il y a ça. Et puis l'association organise aussi des balades nature ou aussi, on peut être initié à la greffe, aux greffes, voyez, aux plantes tectoriales, aux teintures végétales. Et donc la prochaine balade nature, elle sera le dimanche 15 mars. Et comme d'habitude, le rendez-vous, c'est à 13h30 devant l'office de tourisme de Die, départ à 14h. Et on ira sur la commune de Poyol pour étudier la biodiversité, les plantes. On va entretenir un verger, peut-être en faire un verger pilote. Voilà. Donc c'est le dimanche 15 mars, le rendez-vous à 13h30 devant l'office de tourisme de Die.
On pourra peut-être revoir ces prochaines dates la présence de Marie Marquet, par exemple.
Il y a Marie Marquet qui s'occupe des teintures végétales. Il y a Grégory Lemoine qui est un ethnobotaniste. Vous voyez, il y a des compétences assez variées. Moi, je suis plus mycologue. Hein. J'ai publié d'ailleurs un fascicule sur le comportement des champignons. Voilà. Donc il y a des compétences variées. Et puis, selon les balades, une personne ou une autre qui organise la balade. Voilà, c'est assez varié.
Sur ses racines, à mon souvenir, c'était au départ une association qui regroupait une vingtaine de personnes. Une association qui s'est amplifiée aussi.
Il y a une trentaine de personnes, je dirais maintenant, hein, une trentaine de personnes. Et puis, pour les balades, par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire des balades. Je crois qu'il y avait des fois, il y avait 25 personnes hein, en balade sur une après-midi. Ça peut être intéressant. Par exemple, les champignons, c'est un monde immense. On a plus de 800 espèces différentes de champignons dans le Diois. Hein. La biodiversité des champignons, elle est assez incroyable. Hein. Donc, c'est pas évident non plus d'être compétent. On apprend tous les jours dans ce domaine-là. Et puis, les plantes tinctoriales, c'est aussi quelque chose de particulier. Hein. Les qualités médicinales des plantes, tout le monde ne les connaît pas. Il faut être prudent, parce qu'il y a aussi des plantes toxiques.
Voilà. Je reviens un petit peu au Redar et en même temps pour Sources et Racines. Leur prochaine assemblée générale sont programmées déjà ?
Alors non, elles sont pas pour le moment programmées. En général, c'est parce que des fois c'est en automne. Hein, donc pour le moment, non. On a vu à peu près ces trois associations.
Oui.
Au fond, qui se. Assez curieusement. On pourrait dire quand même que ce soit Sources et Racines, Créative Coopération Culture, et puis les cimetières familiaux, alors peut-être moins les cimetières familiaux, mais encore, c'est quand même ce problème d'une connaissance de la nature, on peut dire, hein, d'une connaissance de la nature qui a pour but d'être très pointu en ce qui concerne Créative Coopération Culture, d'être peut-être plus, un peu plus diversifié au niveau de Sources et Racines, puisqu'il y a à la fois les plantes, les champignons, les plantes tinctoriales, diversifiées. Et pour les cimetières familiaux, ben un cimetière familial, c'est la nature aussi. Hein. Et quand il est en état d'abandon, ben il y a des plantes particulières. Et puis inversement, quand il est entretenu, les gens... plantent des espèces un peu à part, comme le yucca, comme le cyprès. Voilà. Donc on tourne autour quand même d'une connaissance de la nature. Et je dois dire qu'on a de la chance, dans le Diwa, d'être dans une région où il y a une biodiversité assez exceptionnelle, qui est un atout au niveau du développement économique et touristique. Et que l'on peut aborder par l'une de ces trois associations, mais de manière un petit peu différente.
Le tourisme, la dernière question, le tourisme, pour vous, est-ce une bénédiction pour le Diwa ou alors est-ce que ça amène aussi quelques complications, justement, du fait de la pollution ou de dégradation, par exemple ?
Oh, c'est un atout. C'est un atout, fondamentalement, c'est un atout. Il y a assez peu de problèmes posés par le tourisme. Le seul problème, c'est pas forcément d'ailleurs lié au tourisme, mais le problème, c'est que quand au mois de juillet, août, vous avez une très grosse population dans les campings, ça peut poser un problème de pollution, par exemple au niveau de la Drôme. Hein, donc ça, on connaît ce problème. Parce que la Drôme est une rivière extrêmement irrégulière. Donc si au mois d'août, elle tombe à 5 mètres cubes par seconde, c'est pollué. C'est pollué et normalement, on met baignade interdite. L'autre problème, mais c'est les canoës. Donc les canoës, des fois, sont très, très nombreux. Donc, il ne faut pas qu'un canoë tape sur un baigneur. Les baigneurs sont très nombreux aussi. Voilà, il y a quelques petits problèmes. Mais le tourisme a un côté extrêmement positif. Je dois dire que même il y aurait des choses à développer au niveau du tourisme. Par exemple, à mieux mettre en valeur les remparts gallo-romains de Die. Hein, qui ne sont pas très bien indiqués. Donc ça serait à développer. Moi, je m'intéresse à la géologie. Il y a des sites géologiques dans le Diwa qui ne sont pas mis en valeur. Par exemple, au CLAPS de Luc, on n'a pas un seul panneau qui explique ce qui s'est passé au CLAPS de Luc en 1443. Donc il y a des... Il y a des initiatives à prendre, soit par les communes, soit par le département, soit par les intercommunaux, voilà, les intercommunalités. En ce qui concerne le développement touristique, il y a des choses à faire.
Jean-Claude Rouchouz, je vous remercie donc d'être venu nous parler voilà. de toutes ces associations dont vous faites partie et je vous souhaite une bonne soirée.
Voilà, ben bonne soirée et bonne continuation pour Radio Diwa, où je viens régulièrement puisque ça m'arrive aussi de lire des petites histoires extraordinaires à Radio Diwa. Voilà, donc c'est une radio que j'apprécie.
Au revoir.
Au revoir.